Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, Média.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, on est ensemble pendant 2h. Bonjour Gilles Kantmann.
Bonjour Valérie.
Comment ça va?
Bah ça va bien, écoutez, on va avoir une super émission, on est content de retrouver Jean-Pierre Pernaut. Il s'en est passé des choses en 33 ans.
Et il s'en est passé, et puis depuis un mois aussi certainement pour Jean-Pierre. Alors la question du jour, eh bien ce soir, ce sont les victoires de la musique.
Et oui, ce soir à 20h05 sur... À 20h05, à 21h05, vous retrouverez les victoires. Ce sont les 36e déjà victoires de musique depuis la scène musicale. Et alors, il y a des petits nouveaux, les révélations. Alors si jamais vous écoutez pas le Loft, peut-être le Loft qui est à 20h sur Sud Radio, avec Yvan Cujus, peut-être vous ne connaissez pas forcément... Attic, ça fait ça. Angela.
Ouais.
Ou Hervé. Ou Lou Saint de Yakuza. Vous connaissez tout ça, Valérie?
Pas du tout. Pas du tout. Et j'assume totalement. Je suis vieille. Je ne connais pas tous ces chanteurs. Effectivement, je connais Julien Doré, Camélia Jordana qui y seront ce soir. Benjamin Biolay. Mais sinon, Mais sinon, c'est vrai qu'il y a toute une génération de chanteurs. Donc, on vous a posé cette question sur le compte Twitter de Sud Radio.
Eh ben, Valérie, sachez que vous êtes en symbiose avec nos auditeurs. Je vous félicite. 77% nous disent non sur le compte Twitter de Sud Radio. Vous pouvez aller répondre donc à cette question. Connaissez-vous les nommés? Et oui, 33%. Jackie nous dit, c'est une palette d'artistes dont certains, les révélations ont été aidées grâce aux victoires. C'est vrai qu'on les a connus après les victoires, et il a raison aussi de nous alerter sur que ça peut être un petit podium.
Allez, on passe au zapping.
Sud Radio, 10h midi, Média, l'instant zapping.
Valérie, direction Toulouse, pour une bonne nouvelle où les jeunes du quartier se sont mobilisés pour faire libérer la maison de Roland qu'on a entendu dans la matinale de Patrick Roger. Roland, 88 ans, qui était squatté. C'est un reportage sur BFM ce matin.
Le cadenas installé par les squatteurs sur le portail de Roland est enfin détruit. 6 mois après avoir investi la maison du retraité de 88 ans, la dizaine de squatteurs a quitté les lieux hier soir vers 18h30 grâce à une négociation avec des jeunes du quartier.
On s'est mis d'accord avec eux et avec la police et ça s'est super bien passé. C'est plus qu'une fierté, je pense. Et puis comme ça, il pourra joindre sa femme en EHPAD.
Pour la fille de Roland, très émue par cet élan de solidarité, c'est la fin d'un long cauchemar.
Je suis bouleversée par tant de solidarité et je ne peux que remercier tout le monde.
Voilà, c'était assez émouvant et Roland, ce matin, l'était également dans le journal de Patrick Roger et de Cécile de Ménibus. Alors hier, je sais pas Valérie si vous avez regardé la télévision, mais ça hurlait dans nos télés entre C8 et France 2. Ça débattait grave, comme disent les jeunes. Vous avez regardé?
Oui, bien sûr.
Alors, ça avait au moins le mérite quand même de supprimer la langue de bois. Écoutez cette question très claire et très cash de Thomas Soto à Gérald Darmanin.
Sauf que Gérald Darmanin, vous êtes, en tant que ministre de l'Intérieur, le ministre en charge des violences faites aux femmes. Est-ce que ça ne vous interroge pas d'être vous-même accusé de viol? Est-ce que ça ne vous pose pas un problème?
Vous imaginez, comme disait le président Sarkozy, de l'indignité de votre question? Je n'ai aucune leçon à recevoir. Et par ailleurs, je ne vous souhaite jamais d'être calomnié. Ni pour vous, ni pour votre famille, ni pour votre honneur.
Et si vous êtes mis en examen dans cette affaire, est-ce que vous quitterez le gouvernement?
Je ne serai pas mis en examen dans cette affaire. Il y a eu, monsieur, 3 décisions de justice successives. Je constate... Au bout de 4 ans, cette calomnie ne cesse pas. Vous continuez à en faire le relais. Je comprends très bien pourquoi vous faites. Et je ne vous en vais. Il ne tient pas rigueur, évidemment.
On
ne
parle
évidemment.
Pas d'une calomnie, on parle d'une information judiciaire.
C'est
vous
une calomnie.
Vous avez vous appelez ça une calomnie. Il y a
acharnement tout à l'heure.
C'est un acharnement mesdames et messieurs judiciaire. Les journalistes, l'affaire Baudis ne vous a pas suffi.
C'est un acharnement judiciaire.
L'affaire Baudis vous a-t-elle suffi?
Voilà, il a rappelé l'affaire Baudis. J'imagine que vous en parlerez avec vos débatteurs sur ce débat entre Gérald Darmanin et Marine Le Pen. Sur C8, ça hurlait aussi, Valérie, avec Jean-Luc Mélenchon, invité de Cyril Hanouna, qui a fait face à Laurence Saillet. Et vous allez voir, on ne peut pas dire qu'il a été vraiment très classe avec elle. Il l'a limite insulté.
Mais oui, vous êtes,
Mélenchon, ça
vous êtes banalement
pas.
Réactionnaire
vous
mentez, et vous n'aimez
vous
pas
bien qu'il y a que
et
le...
vous n'aimez pas l'unité de la France. Voilà votre
mais
problème.
Mais c'est vous qui n'aimez pas les femmes.
Laurent,
parce que vous, ça ne vous dérange pas que les femmes soient voilées, que les femmes portent des burkinis.
Ah, on a changé de sujet.
Pas. Ça ne vous dérange pas qu'elle
ait
la piscine à des horaires décalés.
Qu'est-ce que vous en savez? Regardez comme vous êtes méchante et agressive. Regardez tous vos vilains visages crispés contre moi.
Parce que moi, je suis pour l'égalité homme.
Oui, oui, pas moi peut-être.
Parce que vous, ça ne vous dérange pas que les femmes
vous
couvrent pour les enlever.
Alors évidemment, dira une femme qu'elle a un vilain visage.
Oui, votre vilain visage, c'est effectivement...
C'est pas... Voilà, c'est pas, on peut pas dire qu'on peut dire ça à une femme. Et du coup, évidemment, ça a beaucoup tweeté. Vous allez sûrement revenir avec vos débatteurs. Véritable scandale. Je sais pas si vous avez vu ça hier soir, Valérie. Le maire de Trappes a pénétré au sein d'une école. Cette école du professeur Didier Lemaire. Oui, le maire a pénétré dans cette école pour faire quoi ? Distribuer des tracts dénonçant les propos de l'enseignant. C'était ce matin sur BFM.
Cet après-midi, plusieurs élus de Trappes, dont le maire, se sont effectivement introduits dans le lycée où enseigne ce professeur pour distribuer des tracts qui dénoncent en fait les propos de ce professeur. Je vais vous lire un extrait de ce tract. Chacun a le droit de s'exprimer, mais je n'accepte pas, donc c'est le maire qui écrit, les propos violents tenus contre vous, les lycéens et les trappistes. Il faut savoir que l'éducation nationale a réagi de son côté, qu'elle condamne cette intrusion, que le fait qu'un tract politique soit distribué dans l'enceinte d'un établissement scolaire.
C'est quand même fou. Oui,
on va y revenir tout à l'heure sur ce sujet. Effectivement, c'est assez, assez choquant.
Et puis, pour finir, Valérie, sortez votre agenda. Alors, qu'est-ce que vous faisiez, Valérie, le 16 décembre ?
J'en sais rien, moi.
Vous savez pas ce que vous faisiez le 16 décembre ? En tout cas, c'est une question très importante qui a été posée par Pascal Pro sur CNews à Nicolas Dupont-Aignan. Qu'est-ce que vous faisiez le 16 décembre ? Alors attention, je vous préviens, c'est une séquence culte entre Pascal Pro et Nicolas Dupont-Aignan. C'était hier sur CNews.
Le 16 décembre, il y a eu un vote à l'Assemblée nationale.
Oui.
Bon, vous y étiez ?
Le 16 décembre, lequel ? Parce qu'il y en a tellement.
Le 16 décembre 2020.
Lequel vote ? Parce qu'il y en a tellement.
Il y a eu un vote pour... Précisément
pour l'état d'urgence sanitaire.
Bien sûr.
Et vous y étiez ?
J'ai combattu.
Vous y étiez ?
J'ai voté contre.
Bien sûr. Vous y étiez ?
Le dernier vote, mercredi dernier.
Le 16 décembre, est-ce que vous y étiez dans l'Assemblée ?
Je ne sais plus.
Vous n'y étiez pas. Voilà, vous n'étiez pas ce jour-là au Parlement.
Bon,
vous n'êtes pas venu. Voilà.
C'était à quoi ? C'était le 16 décembre ?
Ah oui, c'était le 16 décembre.
Et
oui.
Le 16 décembre, lequel ? Il y en a beaucoup. Il y en a un par an.
Il sentait le piège se refermer sur lui. Voilà. On se retrouve dans un tout petit instant avec Jean-Pierre Pernaut. Jean-Pierre Pernaut qui vient donc de passer son premier mois sans JT à 13h. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Média, l'invité du jour.
L'invité du jour, c'est notre chouchou, on peut le dire, tant pis pour les autres, c'est Jean-Pierre Pernaut. Bonjour Jean-Pierre, merci
Bonjour
d'être
Valérie.
Là. Vous publiez 33 ans avec vous aux éditions Michel Lafon, une autobiographie. Ce livre est un pur moment de bonheur parce qu'on a l'impression de vous entendre raconter ce livre. C'est un livre dans lequel vous racontez votre parcours, beaucoup d'anecdotes et puis très personnel aussi, avec beaucoup d'histoires. Déjà, comment ça va Jean-Pierre, premier mois sans JT.
Je suis en pleine forme, je bosse comme un fou avec une plateforme numérique qui cartonne, la JPP TV, une émission sur LCI qui a bien démarré, Jean-Pierre et vous.
Tous les samedis, 13h45.
Ouais,
c'est formidable, Jean-Pierre et vous.
Je continue à faire parler les Français avec mes chers correspondants en région.
Voilà. Des histoires formidables.
Oui. Donc c'est vrai que 33 ans de JT, c'est pas rien. Vous le dites au tout début du livre. 8500 journaux présentés, dont 7000 à la mi-journée. Les 1000 autres, c'était avant, c'est ça ?
C'était avant. J'ai été présentateur du journal du soir pendant trois ans et déjà avec Montrousy pendant trois ans avant au 13h.
Donc 8500 journaux, ça fait quand même du monde. Et puis ce livre, vous le dédiez à votre femme, à vos enfants et à tous ceux qui vous ont invité à déjeuner. Ça en fait du monde. Non, vous avez tenté de calculer un jour
Je ne sais pas, mais je présente à peu près 220 journaux par an. Allez, 5,5 millions de moyenne. Ça fait pas mal de vues, comme on dirait, sur les réseaux.
Absolument. Donc comment ça va ce mois, encore une fois ? Comment ça s'est passé ? Vous a eu le dernier jour de votre journal. Comment ça se passe depuis un mois ?
La transition s'est très bien passée d'abord, parce que je tenais à ce que ça se passe bien, parce que j'ai décidé d'arrêter et de changer de rythme. C'était trop lourd pour moi, à 71 ans bientôt, de me lever tous les matins à 6h et un journal quotidien. Quand on se donne à fond pour ce journal, on en est le responsable. C'est vrai qu'à un moment, il faut lâcher un petit peu. Donc j'ai pensé qu'il fallait lâcher. Et pendant le confinement, avec Nathalie, ma femme, on s'est dit « Allez, on va rester un peu plus souvent à la maison. On va arrêter le 13h. » Et puis la transition s'est remarquablement passée avec Marie-Sophie, qui a eu 3 mois pour s'imprégner de l'ambiance, de l'équipe, des correspondants en région. Oui. Elle est originaire de Villefranche-de-Rouergue. Elle aime sa région, elle aime les gens. Et avec TF1, ce qu'elle n'avait peut-être pas quand elle était sur France 2, elle a une équipe hyper solide qu'on a mis des années à construire. la maison est solide. Je vais passer les clés le 18 décembre en disant, vas-y, tu peux y aller, la maison est très solide. La maison est solide, elle va y mettre sa patte doucement. Pour l'instant, elle s'y met doucement et c'est vachement bien.
Vous, vous appréciez regardez, ce genre vous la regardez.
Je la regarde de temps en temps quand je peux la regarder.
Parce
quand
que maintenant,
pas...
vous allez déjeuner, vous faites quoi à 13h maintenant?
Ah ben à 13h, quand je... oui, j'ai des déjeuners à des heures normales. De temps en temps, je regarde et j'adore. Oui,
vous adorez. Et est-ce que quand vous voyez qu'elle fait de très bonnes audiences, ça vous réjouit, très honnêtement? Ou est-ce
oui, bien
que
sûr.
Vous dites,
mais les audiences restent. Ouais. Les audiences sont stables depuis 6 mois à peu près, depuis qu'on est dans la période du Covid. On est aux alentours de 6 millions à 13h avec 42, 43, 44% de part d'audience. Donc elle est un petit peu en dessous de décembre. Mais décembre, il y a eu mon départ, donc il y a eu des audiences de folie. Mais on reste au niveau d'octobre, novembre. Donc ça reste à des très bons niveaux, à deux fois l'audience de France 2. Donc,
Et c'est ça Marie-Sophie. La vraie question. Est-ce que vous avez regardé le journal de Julien Bugier, la nouvelle formule
non,
qu'ils ont mis en
temps,
place
j'ai pas eu le temps de le regarder.
C'est de la langue de bois, ça.
Non, j'ai pas eu le temps de regarder.
Vous n'avez pas le replay? Vous a pas montré, Nathalie, le replay sur
non, je regarde. J'ai pas regardé parce que je regarde quand je peux regarder le journal à 13h, je regarde le journal de 13h de TF1 parce que j'y retrouve tout ce qu'on a construit pendant des années. J'y retrouve tous mes amis correspondants en région qui se donnent à fond avec Marie-Sophie de la même manière qu'ils le faisaient avant. Là, en ce moment, ils sont dans la neige dans le nord, ils sont en maillot de bain dans le sud, bon, ou presque. Mais voilà, ce sont des correspondants que j'adore et j'adore voir leur travail. Il y avait un reportage avant-hier de Patrice Roubaud, correspondant en Corse, sur le brooch, la fabrication du brooch. Ce reportage était magique. Et voilà, c'est ces reportages magiques qui m'ont donné des frissons pendant 30 ans.
Et qui continuent à vous en donner.
Des frissons à Marie-Sophie.
Ouais. C'est quoi un bon journal?
Un bon journal, c'est un journal où on est proche des gens et des préoccupations des gens.
C'est ce qui revient dans votre livre, vraiment.
C'est d'être à la fois dans l'actualité, de ne pas rater les grands événements d'actualité. Je sais pas, cette semaine, on a dépassé les 80 000 morts du Covid, par exemple en France. C'est l'un des pays où la crise est la plus meurtrière. Ça, c'est le genre d'événement qu'à 13 heures, moi, je ne peux pas manquer. Ouais. Et à côté de ça, de montrer les richesses du patrimoine et puis la vie des gens. À quoi on pense en ce moment? Est-ce qu'on en a ras-le-bol de se balader avec un masque? Est-ce qu'on en a ras-le-bol de voir les théâtres fermés, etc.
Vous saviez que vous étiez autant aimé?
J'ai été surpris des réactions. Non, mais c'est vrai, moi, j'ai toujours fait mon boulot le plus simplement possible. Oui, j'ai été très surpris des dizaines de milliers de messages que j'ai reçus. D'ailleurs, tous ceux qui m'ont envoyé à qui j'ai pas répondu, pardonnez-moi, mais je peux pas répondre à tout le monde.
Il y a
tellement de courriers, de messages.
Ouais.
C'était fabuleux.
Vous avez été surpris, par ce retentissement. Ça faisait partie des questions que je voulais, parce que ça a été quand même quelque chose d'extrêmement important médiatiquement. Oui. Vous avez été invité partout, on en a parlé, ça fait la une.
Il y a eu des unes de journaux, je raconte dans mon livre ce qui m'a surpris. Sud-Ouest, il y avait une une de journal, c'était la mort du pape, quoi. C'était extraordinaire.
C'est ça, et ça vous a touché, surpris.
Ça m'a touché beaucoup.
Donc il y a beaucoup d'hommages qui sont rendus à tous ceux qui ont fait ce journal. Il y a beaucoup d'anecdotes. Moi, j'ai appris, par exemple, que Mourouzi, en fait, il vous avait dégagé. Il vous avait dégagé. Vous l'avez remplacé pendant un été. Vous co-présentiez le journal avec lui. Et puis, il part en vacances. Et puis, il y a un titre de journal qui dit et finalement, si les remplaçants étaient aussi bien que les titulaires.
C'était Télé 7 jours qui avait fait ce titre avec... Je remplaçais Mourouzi à 13h et Dominique Baudis était remplaçant du 20h et Télé 7 jours. Et si le journal n'était pas meilleur avec les remplaçants, et bêtement, j'ai découpé l'article, je l'ai envoyé à Mourouzi par la poste en disant « Dépêche-toi de revenir ». Bon, et puis quand je suis rentré, moi, de vacances un mois plus tard, il m'a viré.
Et là, vous dites que ça a été... quand même vous racontez cette histoire parce que vous vous êtes rendu compte à ce moment-là que du sommet, en quelque sorte, ou en tout cas d'être courtisé, présentateur, d'un seul coup, il y a beaucoup de gens qui vous ont tourné le dos, en tout cas, qui n'ont plus donné de nouvelles. Et vous dites que ça, c'est quelque chose que vous avez toujours gardé en tête.
C'était une leçon toute ma vie, c'est-à-dire que quand on est courtisé, quand on a un journal important, qui est le premier journal d'Europe, etc., tout le monde vous fait des courbettes. Et puis, le jour où vous ne l'avez plus, les gens ne vous en font plus. Ça m'est déjà arrivé il y a 35 ans, 40 ans pratiquement. Ça m'a servi toute ma vie à relativiser les choses.
Le DRH qui ne vous connaît pas non plus, je pense que ça...
Je suis présentateur d'un journal DRH, ça c'était du temps de l'ORTF.
Ça m'a fait rire.
Il ne connaissait pas, il ne savait pas ce que je faisais, il ne regardait pas la télé de DRH.
Oui, ça arrive, il y a même des patrons qui ne regardent pas parfois. Vous n'avez pas de regret d'avoir quitté le JT, le 13h?
Non, j'ai aucun regret, parce que vraiment, je crois que 33 ans, c'est quelque chose de long, de passionnant jusqu'au bout, mais avec mes petits ennuis de santé que je raconte en détail dans ce bouquin. Il y a un moment où on se dit, bon, allez, j'ai 70 ans, ma femme me dit, allez, et si on ralentissait un petit peu? Et pendant le confinement, j'ai tout simplement pris l'habitude, tout en continuant à travailler dans une petite rubrique que j'avais appelée le 13h à la maison, il y avait un mini-studio à la maison, j'avais une rubrique de 15 minutes dans le journal, Mais je me réveillais vers 8h le matin, alors que d'habitude, depuis 30 ans, c'était 6h. Quel bonheur de dormir 2 heures de plus.
Ah oui, donc là, vous avez
réussi. C'est ce que je fais en ce moment.
Qu'est-ce que vous faites?
Moi, je voulais savoir comment vous vivez la notoriété et tout ce qui se passe avec vos deux enfants. Est-ce que c'est quelque chose qui vous panique, où vous dites, oh là là, ils sont en train de mettre le doigt dans quelque chose? Et d'un autre côté, on voit votre fils être torse nu et faire du sport, on voit votre fille
alors,
et autres.
Ça, c'est...
Est-ce que vous le vivez mal
alors,
ou vous
non,
dites
je,
bon...
Je le vis pas mal, parce que chaque période amène ses habitudes nouvelles avec les TikTok maintenant qu'on a découvert pendant que les enfants ont découvert pendant le confinement. J'ai 4 enfants, les 2 premiers, la notoriété ne les a jamais gênés. Mon fils est ingénieur, travaille dans le sport automobile et il est pilote lui-même. Ma fille est médecin elle mène sa barque de manière absolument remarquable à Amiens. Les deux petits, il y en a une qui est majeure, à 18 ans, fait des études artistiques. Voilà, ils sont sur TikTok et c'est vrai que sur TikTok, on se dévoile. Même nous, avec Nathalie, maintenant, avant, on était poursuivis par les paparazzis. Et je raconte aussi que le phénomène nouveau, maintenant, c'est qu'on est tranquille avec les paparazzis parce que quand on a envie de montrer des photos, c'est nous qui les montrons. Donc, je me souviens que Johnny Hallyday et Laetitia avaient fait la même chose. Ils étaient moins embêtés avec les paparazzis. Les photos des anniversaires, c'est eux qui les mettaient. Comme ça, on est tranquille.
Vous avez eu une période compliquée avec les paparazzis.
Oh là, attention,
période compliquée avec un été, quand ma femme participait à la ferme célébrité et qu'on lui a prêté une idylle avec Daniel Ducruet et que les journaux à sensation s'en sont emparés. 66 couvertures de journaux, des procès qu'on a tous gagnés. Et puis je règle quelques comptes aussi dans le bouquin des gens qui m'ont critiqué pendant tant d'années.
Absolument. C'est un livre qui vous ressemble.
Mais je n'ai jamais répondu. J'ai été l'un des journalistes les plus critiqués, sans doute. Tout le monde se dit, mais comment tu fais, Jean-Pierre, pour avoir une audience pareille alors que tout le monde te démolit? Enfin, tout le monde. À l'époque, c'était quelques éditoriaux.
C'est une nature, quand même.
Nathalie, c'est une nature, on revient à Nathalie.
Mais sur ceux qui vous... moi, je voudrais qu'on continue sur ceux qui vous ont critiqué. Je vous avais posé la question, d'ailleurs, de savoir le petit journal, vous avez pris un peu au début, et puis vous êtes allé chez Yann Barthès, finalement.
Jean-Pierre,
mais il y avait des choses moins sympas, ou les Guignols, même, c'était...
Alors, les Guignols ont été détestables, parce que les Guignols, moi, ne m'ont jamais fait rire.
Non.
Alors, tout le monde me regardait avec des grands yeux, en disant, mais les Guignols, c'est génial. Non, les Guignols, à mon avis, c'était un instrument de Canal+ pour taper sur TF1. D'ailleurs, tous les gens qu'on ridiculisait dans les Guignols, c'était uniquement des vedettes de TF1. Ouais. On ne se moquait des pilotes de Formule 1 que parce que c'était TF1 qui diffusait la Formule 1.
Il y a eu les voleurs de patates pour France Télé, quand même.
Oui, quand même, un petit peu, mais pas beaucoup. C'était Moujotte, Lelay, PPDA, Pernaud, Chazal...
Morandini.
Jean Alési et tous les gens qui... ou Johnny Hallyday, parce qu'on diffusait ses programmes.
Oui, absolument. Des passions pour décrocher, c'est vrai que le théâtre, vous en parlez, ça a été là aussi une façon d'ouvrir un peu la porte sur l'extérieur, et puis la course automobile, mais le théâtre, ça a été un succès phénoménal.
Oui, non, je raconte ça, parce que quand on reste 33 ans dans un journal qui est si prenant, c'est parce qu'il faut savoir décrocher. Je connais plein de confrères qui ne savent pas décrocher et qui, au bout de 2, 3, 4, 5 ans, sont noyés quand même. Parce que si le week-end, on est bloqué sur les informations, sur les audiences de la veille, si pendant les vacances, on pense qu'à l'actualité, à ses invités de la rentrée, etc., on ne peut pas tenir longtemps. Moi, j'arrive à décrocher grâce au sport auto, où je suis depuis tout petit avec mon frère, mon père, maintenant mon fils.
Et votre fils,
mes fils. Et ma femme pendant quelques années en trophée Andros sur glace. Et puis le théâtre où m'a emmené Nathalie en 2011. Et j'ai découvert cette nouvelle passion pour le théâtre et ce monde que je ne connaissais pas. En coulisses, c'est génial de voir les comédiens qui ont une passion extraordinaire. J'ai découvert ça en écrivant 2 pièces avec Nathalie.
Et il y en aura d'autres?
On a envie d'en écrire une troisième, mais une pièce de théâtre, c'est long. On a des idées, on démarre. 3 mois après, on abandonne complètement l'idée. Donc peut-être l'année prochaine, peut-être dans 2 ans.
Sur la vie d'un présentateur télé?
Pourquoi pas
la vie ça serait pas mal,
m'amuser avec
vous,
ça.
Vous auriez plein de choses à raconter.
Vous évoquez également Combien ça coûte, qui était une émission totalement novatrice.
On va en parler.
Vous me citez, parce qu'on a partagé cette aventure
on a lancé le prime time.
Absolument, à 20h50. Et vous rappelez ce moment, alors moi je n'y étais pas, mais la rencontre entre Paul Loup-Sulitzer et Arlette Laguiller, peut-être qu'on va laisser les auditeurs le découvrir, mais c'est vrai que c'était... Il y a eu des moments incroyables.
Arlette Laguiller, qui racontait sa vie, Paul Loup-Sulitzer avec ses livres, sa Rolls, etc. Et puis, il y avait un petit banc dans l'émission avec nos deux invités, ils étaient chacun à un bout du banc. Et à un moment, l'un d'entre eux, je ne sais plus lequel, je le raconte dans le livre, dit « Oh là là, ma voiture me coûte cher ouais. ». Et l'autre dit « Moi aussi ». Alors il y en avait qui avait une rose. Ouais. À partir de ce moment-là, ils se sont trouvés copains.
Ouais.
L'ennemi était le garagiste.
Ouais.
Et à la fin, ils se sont fait la bise.
C'est ce que vous racontez. Après, il y a aussi Thierry Lhermitte qui ne voulait pas parler de ses impôts, qui ne voulait pas parler de l'argent qu'il gagnait et qui, malgré la prévention, malgré le fait qu'il vous avait dit qu'il ne voulait pas en parler, il a lâché le morceau. Et c'est
j'ai
vrai
posé
que
la question, vous payez beaucoup d'impôts. Il me répond, 1,5 million, la moitié de ce que je gagne.
Et il s'est rendu compte.
Alors qu'il m'avait dit juste avant, surtout, ne me dites pas combien je gagne.
Et vous n'avez jamais eu de tabou avec l'argent?
Si, avec le mien, oui, j'en ai jamais parlé de mon argent.
Ben oui, c'est pour ça que je vous pose la question.
C'est vrai.
Je m'intéresse, dans le Combat ça coûte, on s'intéressait à l'argent public.
Ouais.
L'argent public, c'est le nôtre. Donc, on en parlait volontiers, on parlait de l'argent public gaspillé, des ponts construits au milieu de nulle part, sans route pour y accéder, des déviations pour laisser passer les poids lourds, avec des ponts trop bas pour laisser passer les poids lourds. Donc l'argent public, l'argent des impôts, et on s'en moquait, quoi. C'était de l'impertinence amusée sur l'utilisation abusive de notre argent public. En revanche, l'argent privé, j'ai jamais parlé de l'argent de revenus.
Alors, est-ce qu'on est mieux payé au
13h
ou au 20h? Ou est-ce que des fois, vous avez mieux gagné votre vie au
13h? Il n'y a pas de... Je ne sais pas, il faut demander ça au patron de TF1 ou à l'administration fiscale.
Vous savez un petit peu, non?
Non,
vous ne savez pas.
Non, non. Je sais qu'il y a des chiffres qui circulent qui sont faux, mais ça m'intéresse.
Ah oui, voilà.
Et vous avez des projets qu'est-ce que vous avez envie de faire? Continuer ce que vous faites sur LCI, très bien, puisque c'est une forme de prolongation du JT.
Et la JPPTV,
Non, non, c'est très bien, mais vous auriez envie d'animer encore une émission, shootant la perche pour
non,
combien ça coûte?
Non, j'avais pensé peut-être essayer de me lancer dans la radio. J'ai pas eu la chance que vous avez de faire de la radio. J'ai jamais fait de radio de ma vie.
On va vous présenter.
Peut-être un jour, j'aurais envie de faire de la radio. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas le temps. J'ai un rythme moins soutenu qu'avant, mais JPPTV, c'est tous les beaux reportages magazines qu'on peut revoir. On s'inscrit surtout avec le confinement, là, avec le couvre-feu, le soir, on rentre chez soi, on se met sur Internet et on peut se balader dans les régions d'une manière extraordinaire grâce à la JPPTV, où je pique un petit coup de gueule de temps en temps, on ne se refait pas. Et puis... Et puis Jean-Pierre et vous le samedi, et puis des grands reportages aussi. À partir du mois de mars, on entame une série de grands reportages que je vais tourner. J'ai commencé à en tourner un en Alsace, sur le patrimoine des régions et les gens qui se battent pour préserver ce patrimoine. On commence avec l'Alsace, diffusion fin mars, je crois, le dimanche après-midi, dans la case des grands reportages de TF1.
Non, je voulais savoir, est-ce que vous êtes vacciné?
Non, pas encore, parce que je suis encore en bonne santé, j'ai pas l'âge, enfin je sais pas, je vois des pays du monde où tout le monde est vacciné. En France, apparemment, il faut être dans des cases. Je sais pas, je comprends pas bien ce qui se passe non plus de ce côté-là. Apparemment, on a raté le vaccin, j'ai l'impression.
Mais vous n'avez pas été chercher à vous faire vacciner, vous êtes
Pour l'instant, non, j'ai appris, je ne rentrais pas dans la case.
Et vous ferez vacciner quand vous pourrez le faire.
Oui, peut-être si les vaccins sont efficaces. Apparemment, il y en a un qui ne l'est pas, là.
L'AstraZeneca, mais il ne vous concerne pas, c'est pour les moins de 65 ans.
Merci, c'est gentil de me rappeler.
C'est votre infirmière.
C'est gentil de me le rappeler.
Jean-Pierre Pernaut, 33 ans avec vous, formidable autobiographie. Je crois que c'est un des livres où il y a le plus de noms cités.
Des noms importants.
Absolument, non, mais vous citez les correspondants, vous citez... c'est à la fois une histoire de la télé, votre histoire personnelle, puisque vous évoquez, vous le disiez, votre maladie, la rencontre avec votre femme. Il y a plein de choses dans ce livre, et encore une fois, moi, en le lisant, j'ai eu l'impression, je vous dis, de vous entendre me le raconter. Peut-être que c'est votre voix familière qui fait cela. En tout cas, merci d'être venu ce matin sur Sud Radio. C'est paru aux éditions Michel Lafon.
Et pour finir, à 13h45, on voit quoi samedi? C'est quoi le sommaire?
Alors samedi, nous serons à Nantes avec deux thèmes, avec des téléspectateurs de LCI qui viendront nous parler de tout ce qui est arrêté dans le monde de la culture, avec une comédienne, un directeur de salle, un organisateur de spectacle. Et puis le deuxième thème qu'on abordera à Nantes, c'est l'une des régions de France où le chômage est le moins élevé. Malgré la crise, comment font des chefs d'entreprise pour embaucher en ce moment? Donc voilà, ce sera les deux thèmes de LCI.
Vous êtes pour l'ouverture des salles de spectacle?
Oui, bien sûr.
Vous trouvez ça aberrant alors?
Si on n'avait pas fermé les salles, on serait à combien? 200 000 morts? Là, on est à 80 000 morts. Tout le spectacle a arrêté. Je ne pense pas qu'il y ait eu un cluster dans une salle de théâtre. Donc, il faut les rouvrir demain matin.
Eh bien, Roselyne Bachelot y travaille.
Certainement. Oui, mais c'est à elle de décider. C'est pas elle de travailler.
Oui, absolument. Merci, Jean-Pierre Pernaut, d'être venu avec nous. 33 ans avec vous, chez Michel Lafon.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.
À avec vous sur Sud Radio et avec notre libraire prescripteur qui vous dit ce qu'il faut lire et ne pas lire.
Avec la merveilleuse Valérie voilà. Expert, la reine des médias.
Gérard Collard, libraire à Saint-Maur. On va parler livre, un petit coup de gueule. On en avait parlé dans l'émission la semaine dernière, mais enfin dans l'émission du 10h-11h à propos de Gabriel Masneff qui publie un livre plus ou moins, enfin pas à compte d'auteur, sur souscription.
Souscription, qui est quand même hallucinant.
Et ce sale mec dit je voulais murmurer quelques mots à l'oreille de Vanessa Spiringora avant de partir. Ça me dégoûte à un point hallucinant. Et surtout qu'il y ait des gens qui soient prêts à payer 100 euros parce qu'ils réclament 100 euros pour qu'on puisse avoir accès à son livre. Je trouve ça hallucinant.
Je serais curieux de savoir le succès de ce bouquin. À mon avis, ça, en plus, j'ai peur que ça marche parce que les gens, ils vont vouloir. Puisqu'il y a le côté secret, interdit.
Enfin, 100 euros, j'espère qu'il y aura des gens pour aller l'acheter.
Il n'y en aura pas chez nous.
Voilà. Il n'y en aura pas chez nous. Alors, un coup de cœur rapide, mais j'y reviendrai parce que je suis en train de le lire. C'est mon ami, ma grande amie, Joëlle Goron. Vous vous souvenez Mamie Goron dans Froufrou. Elle a écrit un petit livre tout à fait épatant qui s'appelle Trop jeune pour être vieille. Ça paraît là ces jours-ci chez De Noël. Et alors, elle n'a pas sa langue dans sa poche, comme vous le savez. Et donc, elle raconte ce que c'est que d'être vieille et les avantages. C'est un peu un livre confort, doudou, avec son humour à elle, avec des listes de choses que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est-à-dire dire à un serveur, non, c'était pas bon, ce qu'on n'ose peut-être pas faire quand on est plus jeune, et puis le rapport aux enfants, et puis elle les cache, elle dit les choses, donc je suis en train de le lire, ça me fait rire, mais aux éclats, et elle dit, attention, les nouvelles vieilles débarquent, elles sont fortes, dignes, libres, et n'ont plus rien à prouver à personne, et donc...
C'est le contraire de Bernard Pivot, quoi.
c'est un peu ça, elle est un petit peu plus jeune que Bernard Pivot, Joël, mais elle a 77 ans, elle dit son âge, et puis elle dit qu'elle est une grosse feignasse, qu'elle n'avait pas eu envie de l'écrire, donc c'est Delphine Appiou, qui était journaliste, qui l'a écrit avec elle, en collaboration, absolument, parce qu'elles l'ont écrit ensemble. Ça s'appelle « Trop jeune pour être vieille », la couverture est à son image, jaune pétant, elle a un gilet rouge, et c'est ma copine, et son livre est très bon, s'il n'était pas bon, je ne vous en parlerai pas. « Très jeune pour être vieille », si vous avez plus de 50 ans, allez-y, ça va vous faire marrer. Gérard.
Moi, j'ai été très touché par un livre qui s'appelle Reviens Lila, chez Grasset, de Magali Laurent. Déjà parce que, je ne vais pas dire sur quelle chaîne on en a parlé, mais la journaliste qui en parlait, elle était d'une froideur. Je me demandais même si elle l'avait lu, ce bouquin. Je me demande comment on ne peut pas être ému par ce genre de bouquin. Il n'y avait aucune empathie, ça m'a énervé par cette femme.
Surtout que l'histoire est terrible.
C'est terrible. Alors, c'est l'histoire de cette femme. Hein, elle est mariée. Son mari décide d'emmener sa petite fille de 3 ans et demi en vacances en Tunisie. Et puis, il y a un moment, elle ne revoit pas venir sa petite fille et son mari lui parle et il est en Turquie, va partir pour la Syrie, il a enlevé sa petite fille, il a décidé, parce qu'il ne veut pas que cette petite fille vive chez les mécréants et qu'elle devienne une complice de cette société qu'il déteste. Ouais. C'est en 2016. En 2016, alors au début, il lui parle souvent en Skype, il voit sa petite fille, et alors on voit, ça va être tragique pour cette femme, c'est qu'au début, la petite fille l'appelle par maman, après elle l'appelle par son prénom et maman. Après, elle ne parle presque plus français. Ouais. Et après, elle ne parle plus du tout français. Et c'est lui qui traduit. Et tout d'un coup, ça s'arrête. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de nouvelles. Donc, c'est la terreur de cette femme. C'est l'angoisse. C'est vraiment, vous êtes dedans.
Ouais, ouais.
J'avais l'estomac. Et puis là, elle se dit... il est mort, quoi, quelque part. Mais comme il s'était remarié, puisque ces gens se remarient avec d'autres femmes, elle est persuadée que ce mari est mort et que la petite fille...
Elle a été récupérée.
Et alors, elle explique comment, à chaque reportage sur la Syrie, elle regarde si elle peut voir cette... C'est un livre... Moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Parce qu'on parle souvent des enfants qu'on ramène en France, comme ça déjà c'est un problème parce qu'il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là, mais on parle pas de ces gens dont les enfants ont disparu complètement, de ces mères qui sont complètement dévastées, qui sont complètement désemparées. C'est pas du tout larmoyant, vous voyez, elle raconte ça. C'est l'inquiétude.
C'est invivable.
Oui, c'est invivable. Moi, je trouve que. En plus, il y a la notion qui est terrible, c'est l'incertitude. C'est-à-dire que dans l'absolu, elle saurait que sa fille.
Oui. Un pays a été enlevée, mais qu'elle est vivante et qu'elle va bien. Mais là on sait qu'elle est en Syrie, a priori, mais elle ne sait pas ce qu'elle est devenue.
Voilà, et c'est un très, très. enfin beau, c'est pas le terme, mais c'est un livre très vif, très vrai, très, vrai, très, très vrai, voilà. Ouais. C'est ça vous fait. Moi, je trouve qu'on a une époque où il y a des gens comme ça dont on parle très peu, et puis qu'il n'y a pas que le Covid, ça parce que. Moi, j'ai l'impression que la vie, elle s'est arrêtée, mais la vie de ces gens, elle continue. Hein. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses dans le monde qui se passent, qui sont très importantes, dont on ne parle pas. Et entre autres, l'histoire de ces femmes. C'est vraiment... ne passez pas à côté. Ouais. C'est vraiment...
ça fait 5 ans. Hein. Ça fait 5 ans. 2016, elle a remué ciel et terre pour la retrouver. Elle a appelé des journalistes qui sont allés sur place, les enquêteurs, des membres de la Croix-Rouge. Et effectivement,
moi, je trouve que c'est un courage.
Elle dit, je ne sais plus ce que c'est que d'avoir des moments de joie intense, d'insouciance, des moments où tout est serein. Tout ça, c'est parti quand il l'a enlevé. C'est effectivement terrible. Elle l'a écrit avec la journaliste Françoise-Marie Santiki et c'est publié chez Grasset.
Voilà. Ouais, c'est
voilà. Plus gai, un livre pour enfants que j'ai offert à une petite fille de 8 ans et qui a adoré ce livre. Ça s'appelle Le Grimoire d'Elfie chez Dracou. Ça vous dit quelque chose, Gérard, ou pas? Les auteurs Arleston et Alouette et la couleur Hélène Lenolive. Je n'arrive pas à le lire. Et en gros, c'est l'histoire d'une petite fille. Alors, ça va plaire. Hein, je vous dis, c'est 8 ans. C'est bon, la petite fille Elfie et Magda, sa sœur, elles vivent chez une tante méchante. Ah. Et un jour, la sœur aînée revient de Londres. Elle a transformé un bus anglais en librairie ambulante pour aller de village en village. Et elle s'évade. Et elles vont se balader. Et là, elle se retrouve dans une petite île bretonne où il y a une histoire de timbre perdu. En tout cas, ça fonctionne bien. C'est un joli album, gai, joyeux. Donc, si vous cherchez pour des petites filles, petits garçons, 8-9 ans, c'est nickel. Ça s'appelle Le Grimoire d'Elfie et c'est aux éditions Dracou.
Surtout que les gosses, ils sont comme nous, hein. Ils ont besoin de joie, parce que mine de rien, là, nous, on les voit à la librairie, c'est dur, hein. C'est très dur pour eux. Je vais replonger encore un peu, mais je ne sais pas si vous l'avez fait dans votre émission du matin. J'ai beaucoup... Je trouve que c'est un livre qui fait partie du patrimoine, comme Les Lambeaux, vous savez, de
Philippe
Lançon. Il y a Les Échappés et Charlie Hebdo qui ont fait paraître cet album de Bouc et Niel, qui s'appelle Janvier 2015. C'est le procès de Charlie Hebdo. Et comme on n'a pas le droit de visionner enfin, il n'y a pas de film actuellement. Donc, ils ont repris les croquis de Bouc qui a assisté au procès. D'ailleurs, des croquis
magnifique.
Très, très beaux. Hein.
Très beaux, vraiment.
Et c'est... les articles de Haniel aussi.
Magnifique.
Absolument. Et je trouve que c'est un livre très, très, très important. On parlait des Lambeaux parce que ça montrait les dommages et le traumatisme de ces attentats. Mais là, on voit comment tous ces personnages, c'est-à-dire qu'il y en a, c'est révoltant. Enfin, c'est terrible. La lâcheté, savais pas. Et puis, il y a les courageux aussi, ceux qui étaient. C'est un très joli objet.
C'est très beau.
Hein. C'est un très bel album. Et je trouve que c'est un livre que tout le monde devrait posséder chez soi parce que c'est un vrai livre d'histoire. C'est-à-dire qu'il va y avoir, des essais sur les attentats.
C'est une manière. Il a suivi le procès. Je l'ai vu interviewer le dessinateur où il expliquait qu'il a été obligé de dessiner avec les masques, les gens avec les masques et son dessin.
Et Bouc est un
très,
énorme
très puissant,
dessinateur.
Hein,
c'est un être extraordinaire. Allez-y parce que je trouve que toutes les familles devraient avoir ce bouquin. C'est un bouquin de référence et en plus, c'est très beau. C'est dur de dire ça, mais c'est très, très, très beau. Profond.
Et puis les textes de Haniel sont aussi très, très puissants.
Là, vous aviez votre album d'enfant, moi aussi j'en ai un.
Allez-y.
Qui est très mignon, ça s'appelle Les Lettres de Biscotte Mulotte.
Oui.
C'est avec 6 enveloppes à ouvrir de Anne-Marie Chapouton et de Lily la Baleine. J'adore, j'aimerais bien m'appeler Lily la Baleine. En fait, c'est l'histoire d'une petite souris. Là, un jour, la maîtresse, elle est à son bureau et elle voit une petite lettre. Et en fait, c'est une petite souris qui vit dans un petit trou dans la classe. Et elle raconte sa vie. Et alors, il y a plein d'aventures. Et puis, à un moment, elle disparaît. Oh, ils sont tous très peur. En fait, elle a été malade. Et alors, c'est bon. Si vous êtes allez sur les podcasts, hein.
Ouais.
Et là, vous avez.
Vous pouvez nous suivre sur YouTube, sur la chaîne
sur
des
YouTube,
Débloqueurs.
Il y a tout.
Et sur le
même
Facebook
sur,
de
Sud
Radio.
Et vous avez des petites enveloppes avec le texte de la petite. C'est très joli. C'est très mignon. Et alors, ça marche beaucoup. Les enfants. Alors, les parents ont un truc génial pour les faire lire. C'est-à-dire que ils font lire par jour une enveloppe. C'est-à-dire que le soir, s'ils vont pas se coucher et s'ils n'énorme pas, ils n'auront pas, pas l'enveloppe d'après, c'est un peu comme les calendriers de l'Avent, vous savez, ça dure.
Ah,
c'est très mignon, ça s'appelle les lettres de Biscotte Mulotte, c'est chez Père Castor, voilà, ça, Chapouton c'est et l'île la baleine.
C'est dans quel âge à peu près?
Ça déjà, vous pouvez le relire donc, à partir de 4-5 ans, et puis quand ils savent lire, à partir de 7 ans. Hein. Mais c'est surtout à lire, lire avec le papa et la maman.
Un petit dernier,
François-Xavier Dillard, ne dis rien à papa, c'est en pocket, c'est un petit livre de poche. Et c'est alors, c'est ce que je dis, hein, personne fragile, âme sensible, s'abstenir, parce que là, c'est terrible. Ça commence en Australie, il y a une famille qui est décimée, on leur tire dessus, on les enterre, et il y a juste une victime qui arrive à s'en tirer, ça, en Australie. D'un autre continent, il y a une famille, tout va bien. Le père, la mère, voilà, ils ont des jumeaux. Par contre, la mère a dit à son mari, je ne veux pas que tu me parles de mon passé. Elle a un secret, lequel on ne sait pas. Elle a deux jumeaux. Un qui est adorable et l'autre qui est d'une violence incroyable vient s'installer un voisin à côté et là, tout va péter. Et c'est, vous allez voir, la corrélation entre les deux. Alors, ça... C'est
voilà, c'est fort.
OK, et c'est au niveau de la construction du suspense, c'est une petite merveille, ne passez pas à côté. Je veux dire, quand vous aurez lu ça, vous direz on est bien.
Hein. Et ça s'appelle comment ?
Ça s'appelle Ne dis rien à papa de François-Xavier Dillard chez Pocket, n'importe comment, il faut lire tout François. Ouais. Xavier
Dillard.
Ah oui, ça c'est un incontournable.
Je vous rappelle, je vous ai parlé des livres en gros caractères la semaine dernière. Ouais. Audiolib qui publie des livres actuels en CD et que vous pouvez écouter. Donc là aussi, pour les personnes malvoyantes, si vous êtes en voiture, il ne faut pas passer à côté des livres. Franchement, occupez votre cerveau avec
surtout,
autre chose que des
écrans. Que des nouveautés. Hein,
là vient de paraître Betty de Tiffany McDaniel. Il y a l'incendie nocturne de Michael Connelly. Et puis, j'ai vu que dans leurs meilleures ventes, et allez-y si vous n'aimez pas lire ou si vous avez envie, Le bal des folles de Victoria Mas, qui fait partie de leurs meilleures ventes, et je ne savais pas que c'était paru en audiolib.
Dans les embouteillages, c'est génial.
Absolument, vous le mettez dans les embouteillages, c'est vachement bien. Voilà, on a encore fini, et on vous a donné plein d'idées. Merci Gérard.
À bientôt.
À la semaine prochaine.